Moi, Baruch Hashem, qu'on a vu différents points. La semaine dernière, on a parlé de l'importance de l'expression des sentiments dans le foyer. Maintenant, on voit très souvent qu'un des points qui est essentiel dans la question du Shalom Bayit, c'est premièrement de savoir si oui ou non on peut vivre nos rêves. C'est important quand même. Ah oui. Moi, je vois beaucoup de jeunes gens qui sont aujourd'hui, entre guillemets, très pessimistes sur leur avenir. Des attentats, des guerres, des problèmes partout, des crises économiques, des problèmes de chômage, du mal à trouver son travail. Et en plus de ça, on rajoute à cela, tout simplement, des couples qui ont des problèmes de Shalom Bayit, ici et là, et des divorces à la demande. Donc il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ne sont pas encore mariés, qui me disent, Vodarav, à quoi ça sert le mariage? Les couples autour de nous, on les voit. Divorce, les problèmes. À quoi ça sert de faire des études? Après, même si on est diplômé, on n'a pas forcément le travail qu'on veut. À quoi ça sert de rêver? Je vous résume, hein. Si nos rêves, on ne peut pas les réaliser. On est dans un monde qui est très compliqué. Oui. Et très souvent dans un couple, quand on a des problèmes de gestion de temps. Un exemple, hein. Gestion du temps. On dirait... Quoi, on est là pour parler de ça, non? C'est un sujet qui fâche. La gestion du temps dans un couple. D'accord? Qu'est-ce qu'on voit en réalité? On voit en réalité, très souvent, on a du mal à se mettre d'accord pour savoir comment gérer son temps. Qui va accompagner les enfants le matin? Qui va faire les courses? Qui, quand, comment? Qui va s'occuper des inscriptions des enfants à l'école? Moi, je travaille, toi, tu travailles, plouf, plouf. Il y en a un qui va aller parce que les horaires qu'ils ont donnés à l'école, c'est les horaires où on travaille les deux. Comment on fait? Qui va à la réunion de parents d'élèves? J'ai des rendez-vous, la réunion de parents d'élèves, ils ont décidé de la faire à 17h. 17h, je suis encore au travail. Ou ils la font à 19h, un soir où j'ai un rendez-vous, ou un soir j'ai quelque chose d'important qui est prévu. Comment on fait? Comment on fait pour arriver à gérer ces petits trucs-là dans un couple? Et chacun a l'impression que l'autre ne respecte pas le temps du premier. Moi, je crois que ma femme ne respecte pas mon emploi du temps. Et ma femme pense que moi, je ne respecte pas son emploi du temps. Oh. C'est des questions qui vous semblent avoir aucun rapport. Aucun rapport. Et pourtant, elles viennent tous, c'est le même package. Pourquoi? Tout simplement, le problème qu'on a quand on est jeune avant de se marier, on a tous été jeunes ici. Il y en a qui sont encore jeunes.
On est encore jeunes,
tout à fait. On n'est pas grands parents, non? Oui. Alors maintenant, ça viendra. Mais Bezrat Hashem. Qu'est-ce qu'on voit en réalité? On voit en réalité, qu'est-ce qu'on comprend? C'est quand on est jeune, en réalité, on a un problème. On a l'incertitude de l'avenir. Ouais. Je ne suis pas sûr de ce que me réserve l'avenir. Je veux choisir un diplôme, un métier. Je suis même pas sûr que la branche que je vais choisir, que je vais étudier, je vais forcément avoir un débouché. Oui? En Israël, en Europe, on nous dit médecin, avocat, c'est extraordinaire. Attends, en Israël, médecin et avocat, c'est, il y en a trop. Oui? C'est une réalité. Il y en a beaucoup trop aujourd'hui. Et c'est pas parce qu'on est médecin ou avocat qu'on gagne forcément bien sa vie. C'est une réalité. Donc ça veut dire, je vais choisir une branche, je vais faire des études qui vont me coûter de l'argent. Je vais me casser la tête et c'est pas sûr. Ça veut dire quoi? Toi, premièrement, en tant que jeune, c'est quoi le problème que tu peux avoir? C'est un, ton incertitude, elle est en train de te rentrer dans ta tête, plein de craintes et de peurs. Toutes ces craintes et toutes ces peurs ne font qu'ajouter que des doutes. Tous ces doutes ne vont faire qu'ajouter à ton anxiété. Toute cette anxiété ne va faire qu'ajouter que de l'énergie négative dans tout ce que tu vas faire. Cette énergie négative dans tout ce que tu es en train de faire va te faire tout rater dans ta vie. Oh. Donc ça veut dire quoi en réalité ? La base même de ces problèmes-là, c'est de savoir être positif ou négatif dans sa vie. Non ? Quand on apprend à être positif, on ne sait pas c'est quoi une dispute dans un couple. Où les disputes, elles durent quelques minutes. On positive. Quand on apprend à être négatif, alors, la dispute. Attendez. Non, parce que vous, moi je le vis autrement, moi. Moi je passe mes journées à recevoir des couples qui ont des problèmes de couple. Et les couples, chacun, quand ils arrivent chez moi, chacun pense qu'ils ont des problèmes de couple exceptionnels. Mais il y en a qui arrivent chez moi, ils n'ont même pas de problème. Ils se disputent par principe. Et vous croyez que je rigole ? C'est un principe. Oui ? Donc, quoi, c'est excellent ? C'est pas excellent du tout. Attendez. On voit en réalité, ici, qu'en réalité, pourquoi ils disputent par principe ? Parce que par principe, on a tendance à vouloir être négatif, à voir les choses de façon négative. Comment Akadosh Baruch Hu fait en sorte qu'on soit soumis à l'épreuve de voir les choses de façon négative dans notre vie ? Je vais vous expliquer. Aujourd'hui, c'est très facile. Tous les mois, il y a des factures qui arrivent dans la boîte aux lettres. C'est, il y a des lettres de la banque. C'est ça, c'est quand la lettre elle arrive de la banque, hein, avec le relevé de compte, oui, ou le relevé de la carte de crédit. Vous savez, les initiales de Shalom Bayit, carte bleue, oui. En réalité, c'est une carte quand on voit le relevé, on l'appelle carte bleue parce qu'on devient tout bleu quand on voit le relevé. Donc, en réalité, qu'est-ce qu'on voit en réalité ? On voit tout simplement que quand on se met des pressions pour toutes ces choses-là, on commence à devenir négatif. Et ça nous empêche d'avancer. Quand on devient négatif, on a du mal à dormir. Quand on a du mal à dormir, on a du mal à réfléchir. Quand on a du mal à réfléchir, on a du mal à être frais du matin. Quand on a du mal à être frais du matin, on a du mal à avoir les idées au clair. Quand j'ai du mal à avoir les idées au clair, asba, comme on dit en anglais, les disputes, elles commencent extraordinaires. Les missiles. Et un missile à la bokeh, c'est une paire de savates dans le salon qui appartient au mari, par exemple. Je donne un exemple, moi. Un exemple. Que la femme a rangé le salon la veille, elle dit à son mari, qu'est-ce qu'elles font tes savates au salon ? On a oublié qu'il y a un petit de 3 ans dans la maison qui s'est amusé avec les savates de papa et qui les a emmenées jusqu'au salon. Ça peut arriver. Non ? Ou d'autres exemples. Une maman qui veut être prévoyante, elle prévoit pour le goûter du lendemain, du matin, il y a des enfants quand ils vont à l'école, à 10h, ils ont besoin d'un goûter. Donc elle veut leur préparer un petit pain, un petit croissant, un petit truc sympa, quoi, qu'elle met de côté. Et le lendemain matin, elle se lève et elle voit qu'il y a quelqu'un qui a mangé. Et des fois, les femmes, elles se disent, tu vois pas que c'est mon mari qui a mangé. Non ? Ouais, il y a des femmes, 18. 18, c'est extraordinaire. Elles attrapent leur mari. Ça va, c'est bon, on se détend. Une minute. Look at me. Alors maintenant, je suis pas détendu. Look at me, please. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit en réalité ? On voit en réalité, ici, que la femme, elle va prendre la partie de mari. Maintenant, admettons en théorie, que les enfants, durant cette nuit, il y a un moustique qui soit rentré dans leur chambre. Ce qui peut arriver, ça peut arriver. Il fait chaud, d'accord ? On est en Israël, mois de juin, les moustiques, zzz, zzz, ils sont là. Extraordinaire, les moustiques israéliens, parce que même quand on achète les produits avec les prises, hein, ils servent à rien, ces produits. C'est au moins prenez-les quand il faut une bonne odeur. Au moins, ça fait une bonne odeur dans la chambre. Parce que le produit, je pense qu'il ne sert à rien, qu'il moustique israélien. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit ? Même quand on met des produits, il peut y avoir un moustique qui est débarqué. Admettons que le moustique il a débarqué, il a piqué 2-3 enfants dans la maison. Et que les enfants, à 3h du matin, soient tous levés, avec les piqûres, d'accord ? Et qu'ils soient mis un peu de pommade finistile contre les piqûres de moustiques. Et qu'ils n'aient pas réussi à se rendormir et qu'ils ont eu faim, ils sont arrivés dans la cuisine et ils ont vu le goûter pour le lendemain matin. Et le goûter, il est pour eux. Et qu'ils aient décidé de manger. Les enfants, ils n'ont pas l'habitude de se lever la nuit. On est d'accord ou pas ? Ils n'ont pas l'habitude. Donc forcément, c'est qui celui qui a l'habitude de tourner dans la maison le soir pendant qu'on dort tous ? Pour rester tranquille. Peut-être pour étudier sa Gemara. En théorie. Ou pour regarder un film sur son iPhone. C'est fun, l'iPhone. Oui ? Parce que maintenant, c'est extraordinaire. Moi, je connais des maris qui sont très constipés depuis qu'il y a le iPhone. Ils passent des heures aux toilettes. J'ai constaté, la constipation, elle a augmenté depuis la création de cet appareil. Mais, excusez-moi, mais réellement, et je connais aussi des femmes qui ont le même problème. C'est-à-dire, je me sauve un instant de la réalité de la maison. Oui, je vais dans mon petit bureau, les toilettes. Si je vais aux toilettes, quelqu'un peut me dire quelque chose?
Non, mais t'es toujours dérangé,
même
aux toilettes.
Tu bénisses. Oui, Dieu bénisse. On va pas parler. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Rien dire. Je vous en supplie, ne faites pas de commentaires parce que les missiles vont partir. Alors maintenant, tout simplement, qu'est-ce qu'on voit en réalité? On voit quoi? On voit en réalité, ici, que comment on arrive à une réalité pareille de voir des gens, aujourd'hui, qui ont besoin de se sauver de la réalité du foyer? Des gens qui, quand ils travaillent, ils vont retarder leur temps de retour à la maison. Oui? En disant, ben, le matin... Le matin... Bah, Rabba, je suis très content de te voir. Maintenant, mon cours, il est... Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va... Il faudrait que le filmer en vidéo, ce cours. On va faire un spectacle one-man show à la fin, Ellie. Alors, Bezrat Hashem. Qu'est-ce qu'on voit en réalité? On voit en réalité quoi? Comment on arrive à une réalité pareille qu'une personne arrive au stade de vouloir retarder son temps de retour en disant ben, « Le matin, j'ai accompagné les enfants, ça m'a fait prendre du retard, forcément, le soir. » Oui ou non? Ou quelqu'un qui arrive au stade de se dire « Viens, je vais m'isoler, je vais me doucher d'un seul coup ou je vais aller aux toilettes pour avoir une petite minute pour moi, pour souffler, décompresser. » Comment on arrive à une chose pareille? Tout simplement, on arrive à un stade pareil quand on n'est pas épanoui dans sa vie. Pourquoi? Parce que très souvent, les gens ont tendance à avoir ce problème-là. Et les femmes plus que les hommes. Je suis vraiment désolé, ça n'a rien de misogyne. On va expliquer pourquoi. Messieurs, vous écoutez, c'est très important ce que je vais vous dire. La Gemara nous enseigne Nashim Da'atan Kala. C'est Rabbi Meir Balanes qui le dit, sur sa femme Broria. Broria est considérée comme étant une Tanaïte, je l'ai déjà enseigné, dans la Mishnah. C'est un maître du Talmud, Broria. D'accord? C'est pas rien. On a aussi la sœur de Rabban Gamliel, d'accord? Qui s'appelait Ima Shalom. C'est aussi un maître du Talmud. Il y a des femmes dans le Talmud qui sont placées au niveau des Tanaïm, au niveau des Amoraïm. Baruch HaShem. Mais on voit quoi? On voit en réalité que les femmes Nashim Da'atan Kala, elles n'ont pas besoin de mettre les tefilines, elles n'ont pas besoin de faire les tefilas, elles ne sont pas obligées d'étudier la Torah. Parce que du fait de s'occuper du foyer... Et même si elles ne s'occupent pas aujourd'hui, les femmes sont actives, du fait qu'on ne pourra jamais le changer, ça. C'est les femmes qui tombent enceintes, on ne pourra jamais le changer, et qui portent les enfants dans leur ventre, et qui portent la vie dans leur ventre, et qui sentent la vie se développer dans leur ventre, et qui sentent leur respiration devenir compliquée sur la fin de la grossesse, parce que la vie, elle se développe bien des fois, d'accord? Dans le ventre. Du fait qu'elles aient ça, elles ont un rapport intime avec la création, que nous, les hommes, on ne peut pas avoir, on ne peut pas comprendre. Même pour les hommes qui font des grossesses nerveuses, parce que ça existe. Moi, j'en ai fait plusieurs, j'ai jamais accouché. Ma femme a accouché, moi, jamais. Ça se voit en plus. Donc, qu'est-ce qu'on voit en réalité? On voit quoi? On voit tout simplement quoi? On voit par rapport à ça, tout simplement, que le fait qu'elles aient ce rapport à Tibla, Da'atan Kala, c'est quoi Da'at? C'est le fait d'être unis. Unis avec qui? Unis avec Akadosh Baruch Hu. Elles ont l'union avec le divin facile. Les femmes. De ce fait, les femmes, d'où vient cette union facile? Parce que très jeunes, elles sont confrontées, et je vous l'ai déjà expliqué, à la réalité d'être une jeune femme. D'accord? Qui, une fois par mois, elle est indisposée. Et très jeune. Et à partir de ce moment-là, même avant, elles ont tendance à se projeter dans leur avenir. Et que la majeure partie des maris sont des maris au début du mariage qu'on a idéalisé toute une vie. La femme, quand elle se marie, elle a idéalisé son mariage. Toute sa vie. Le fait d'avoir idéalisé cette union, et quand ça ne se passe pas comme elle veut, elle n'est pas forcément au top de sa forme, psychologiquement. Elle fait ressentir. Et les hommes, nous les hommes, on est très fainéants. Même quand on est actif, même quand on est travailleur, dans notre tête, on est très fainéants. On a un neurone qui ne fonctionne pas comme il faut dans le cerveau. Je parle très franchement, pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il y a le moindre problème de shlom bayit à la maison, ça devient l'excuse pour le mari de dire... Mais c'est parce que je ne me sens pas en forme, je ne suis pas bien, on a des problèmes de shlom bayit, c'est pour ça que je n'arrive pas à mettre mes tefilines le matin. C'est pour ça que je ne peux pas faire ma tefila le matin. C'est pour ça que j'arrive pas à me lever. C'est pour ça que j'ai du mal à dormir. C'est pour ça que je ne peux pas me lever le matin pour t'aider avec les enfants. C'est pour ça qu'au travail, ça ne va pas comme il faut. C'est à cause de toi que j'arrive pas à rentrer de l'argent tous les mois. Ça devient la bonne excuse. Et on va reprendre. Et je vais le redire encore une fois, parce que je l'ai dit durant le premier cours. Tout le travail du Shlom Bayit ne dépend que du mari. Vous entendez ou pas? Que du mari. Ça veut dire le mari, que sa femme soit de bonne ou de mauvaise humeur, il doit faire un travail pour rester de bonne humeur. Le rôle du mari, c'est non seulement de rentrer la parnassa à la maison, l'argent, mais aussi de rentrer la Torah. Et pourquoi on rentre la Torah à la maison? La fin de la paracha Kitavo. Toutes les brachot de la Torah ne s'appliqueront à toi que si tu appliques cette Torah dans une vie de joie. Simchat Chaim. Être dans la joie. Une vie de joie. La joie de vivre. C'est extrêmement important. On voit le Rav Nachman de Breslev. On rappellera, il est mort de la tuberculose. Il est mort très jeune. Il a perdu toute sa famille. Quand on étudie ses écrits, il parle que de la Simchat Chaim. Attends, attention, la chassidou de Breslev, elle est loin d'être joyeuse, parce qu'il parle de toutes les épreuves de la vie. Il dit, malgré toutes les épreuves, reste positif. Ça veut dire que si j'applique ça dès le départ, quand moi je suis jeune avant de me marier, je peux vivre mes rêves. Il s'agit juste de vouloir. Si je le veux vraiment, je finirai par y arriver. Et je sais que ça peut paraître très bateau à l'eau de rose, mais c'est ce qui fait la différence entre ce qu'on appelle aux États-Unis les winners et les losers. J'aime bien. Entre les gagnants et les perdants. Quelqu'un qui se dit « je peux réaliser mes rêves, je peux accéder à tout », il peut y arriver. Il peut y arriver. Et on a plein d'histoires de gens qui ont décidé, à un âge tardif, de se reconvertir alors qu'ils n'arrivaient pas à gagner de l'argent. Et d'un seul coup, ils ont fait fortune. Ou qui ont décidé de faire leurs études de façon tardive et de réussir dans leurs études. Pourquoi? Parce que tout est possible. À partir du moment où moi je me rentre dans le capital temps, je me prive de mon capital rêve. Quand je me prive de mon capital rêve, je rentre dans une négativité. Il n'est jamais trop tard pour réussir sa vie. Le Rav Nachman de Breslev, il dit ça qu'aujourd'hui, c'est le premier jour de ton existence. Que chaque jour, c'est le premier jour de ton existence. Aujourd'hui, ta vie commence. Depuis zéro jusqu'à aujourd'hui, ça n'allait pas. Sache qu'aujourd'hui, tout peut aller. Ça ne dépend que de toi, de ta volonté. Tu sais, t'en as marre de te disputer avec ta femme? Arrête de te disputer avec ta femme. T'en as marre de te disputer avec ton mari? Arrête, ça ne tient qu'à toi. T'en as marre de faire des remarques à ton mari? Arrête de faire des remarques. Deviens positive avec lui. Je donne un exemple concret. J'ai eu un cas réel où une femme se plaignait de son mari. Le mari à la maison n'était pas très très gentil, pas très disponible. Dès qu'il y avait un ami qui avait besoin de quoi que ce soit, c'était le plus doux, le plus gentil, le plus généreux, le plus disponible. Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Mr. Hyde à la maison, Dr. Jekyll en ville. D'accord? C'est comme ça qu'il s'appelle. C'est pas moi. Il faut aller parler avec Edgar Poe, lui comme il l'appelait comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit en réalité? On voit en réalité, par rapport à ça, tout simplement, que la femme, elle en avait marre. Et elle m'a appelé. Je lui ai dit, madame, je vais vous dire comment vous faites avec votre mari. Vous passez votre temps à lui dire, j'en ai marre, t'es gentil avec les autres, t'es toujours disponible avec les autres, t'es plus généreux pour les autres, mais pour toi, t'es jamais là, etc. Elle me dit, oui, mais ça fait des années, il n'écoute pas. Je lui ai dit, il ne va jamais vous écouter. De la même façon, un enfant qui pose problème. Oui, tu poses problème, tu fais ce que tu veux, tu ne vas pas à l'école, tu ne travailles pas. Tu fais... À force de lui dire ça, ça lui enlève l'envie, parce que vous rentrez de la négativité dans la maison et dans l'enfant. Il a pas, ça lui enlève, ça lui coupe la chic. Oui. Et en plus, les parents, ils font le truc extraordinaire. Tu réalises pas tous les chômeurs, tous les gens qui ratent leur vie, tu veux faire partie de ces gens-là? Je dis, mais c'est une métier, tout le monde rate sa vie, tu es en train de me le dire. Pourquoi tu veux que je fasse un effort pour la réussir? Et c'est comme ça qu'on obtient des enfants qui viennent voir des rabbins pour leur dire, mais à quoi ça sert de faire des études? À quoi ça sert de se casser la tête? On va pas y arriver. La négativité dans la façon de communiquer. C'est la suite de la séminaire. C'est bien, c'est notre suite?
Oui,
super. Oui, bien, voilà. Oh, Hachem. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on continue? On va continuer. Par rapport à ça, hein, qu'est-ce qu'on voit? On voit, hein, tout simplement, que cette femme, je lui dis, écoutez, allez voir votre mari, dites-lui la chose suivante. Elle me dit, mais ça fait 10 ans que c'est dur. Je lui ai compris. Allez le voir. Je lui dis, tu sais quoi, chérie? Je t'ai préparé un petit plat ce soir. Parce que vraiment, je voulais te remercier. Je voulais te remercier. Parce que, de la même façon que tu es tout le temps disponible pour les gens, pour les autres, tu es aussi disponible pour nous. Et pour ça, je voulais te remercier. Tu prends du temps pour ta famille, tu prends du temps pour nous. Je voulais te remercier et en plus, tu prends du temps pour les autres. Vraiment, on a beaucoup de chance de t'avoir. Deux possibilités chez le mari. Soit c'est un jda, il comprend pas ce qui se passe, il dit merci chérie, mais le jda, il va se dire quand même, attends, ma femme dit ça. Si c'est un jda, il va se dire, si ma femme me le dit, c'est que réellement je le suis, et sans le savoir, il va commencer de lui-même à être plus disponible pour sa famille, parce qu'elle lui a envoyé un petit message subliminal. Pas de dispute. Elle lui a rentré de l'énergie positive, merci. Elle lui a dit un merci. Oui. Savoir dire merci à l'autre, c'est extrêmement important. Je l'ai déjà dit, je le redis et je le répète. Ça, c'est premièrement. Et si c'est un têtu, un peu chmar, parce qu'il y a le jda et le chmar, il faut prendre un dictionnaire en anglais pour comprendre la différence, mais qui s'énerve, d'accord, réellement, il dit, mais tu te moques de moi, mais qu'est-ce que tu es en train de me dire, etc. C'est son ego qui va parler à ce moment-là, mais il va se dire, attends, si elle me dit ça, c'est que réellement, aujourd'hui, il y a un problème. C'est-à-dire, au lieu de te faire le reproche en employant un langage négatif, viens, j'emploie un langage positif, je te fais le reproche inversé, ça s'appelle. La personne se met systématiquement en question dans 80% des cas. Il reste 20% qu'il faut traiter, il faut me les ramener. D'accord ? Déjà 80% les arrivés, ça me fait moins de travail. Vous avez compris ou pas ? Donc, ça veut dire quoi en réalité ? Ça veut dire en réalité, tout simplement, à partir de ce moment-là, que si moi je commence à positiver dans ma vie, et que autour de moi les gens sont positifs, alors tout est possible. Je peux vous dire, Ben Pourat Youssef, on a dans la famille, et même autour de la famille, des amis dans la famille où Ben Pourat Youssef, on voit le père, il est médecin, la mère, elle est ingénieure, ils sont dans le Derech HaTorah. Il y en a un, Ben Pourat Youssef, il est au Canada, il a fait Minal Asakim, il est patron d'une grande société au Canada. Un autre qui est avocat, et l'autre qui est... Et tous, ils réussissent dans ce qu'ils font. Où qu'ils soient. Pourquoi ? Parce que ces gens-là, moi, de tout petit, je peux vous le dire, depuis tout petit, je les ai vus grandir, ils avaient toujours un langage positif dans leur bouche. Et quand ils disputaient le mari et la femme, on se dit, ils disputent ou ils blaguent ? Il se passe quelque chose, ils disent le contraire. Qu'est-ce qui se passe ? Donc c'est une réalité. C'est une réalité. Je peux vous le dire. Baruch HaShem. Donc ça veut dire tout simplement que si moi j'apprends à être positif, réellement, c'est que le même principe que misva goret le misva, avera goret la vera, la positivité entraîne la positivité. Tout simplement. Après c'est à vous, sachez que dans votre réaction, vous êtes en train de faire un choix. D'écouter votre cœur ou votre raison. D'écouter vos sentiments, vos nerfs ou votre raison. C'est vous qui faites le choix. Le choix est entre vos mains. C'est un travail qu'il faut savoir faire. Les gens qui viennent me dire « j'ai un coup de nerf parce que je suis malade et j'arrive pas à me contrôler », c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ça n'existe pas. C'est uniquement si on a affaire à des gens qui sont des cas psychiatriques. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ? Et quand je parle de cas psychiatriques, c'est pas une façon de parler. Je parle de gens qui sont des cas psychiatriques. Un cas psychiatrique, c'est une personne en général qui a une déficience ou physiologique ou neuronale qui l'empêche de réagir normalement. Donc c'est une personne qui est handicapée dans sa tête. Comprenez ? Et c'est pas une vanne, c'est pas une façon de parler. C'est-à-dire à partir du moment où on est un cas psychologique et pas psychiatrique, une petite différence, c'est moi dans ma tête tout seul, j'ai aucun problème physiologique, aucun problème neuronal qui m'empêche de réfléchir normalement. C'est à moi de faire le choix. Maintenant, à vous de décider si vous êtes des cas psychologiques ou psychiatriques dans votre vie. Ouais. Non ? Et puis, si vous avez décidé d'être des cas psychiatriques, vous dites, on vous envoie la camisole, il n'y a aucun problème. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. On fait un choix. À chaque fois qu'on réagit, à chaque fois qu'on lève la voix, à chaque fois qu'on crie, à chaque fois qu'on s'énerve, à chaque fois qu'on insulte, à chaque fois qu'on dit des mots douloureux à l'autre, c'est un choix qu'on fait. J'ai connu un couple où un mari avait une femme qui passait son temps à lui faire des reproches. Le mari travaille, il travaille dur, il se lève le matin, il aide avec les enfants, il aide à la maison. Sa femme, c'est une machine à reproches. Machine à reproches. Et il y en a plein des cas comme ça. Ou l'inverse, des fois, c'est le mari, la machine à reproches. La femme a fait tout ce qu'il faut, le mari, il fait des reproches. Pour faire des reproches. Et le mari, à un moment donné, il en a marre de se prendre des reproches. Il commence à sortir des mots à sa femme. Des mots terribles. Qu'est-ce que j'ai fait de t'épouser? Tu m'as gâché ma vie. Etc, etc. Quand il lui dit ça, ça va la calmer, sa femme. Si la femme a dit ça à son mari, ça va le calmer, le mari? Ça ne va pas calmer. Si on fait la chose inverse, on prend le cas dont j'ai parlé au début. Le mari, qui, c'est sa savate, c'est le gosse de 3 ans qui a pris ses savates qu'ils ont emmené au salon. Ou c'est les gosses qui sont réveillés au milieu de la nuit à cause des moustiques, qui sont partis manger leur goûter pour le lendemain matin. Le mari rentre le matin de sa tfila, parce qu'il va à la synagogue faire sa tfila, d'un point de vue technique, c'est mieux. Et quand il rentre de la synagogue, quand il rentre sur le pas de la porte, directement le reproche. C'est toi qui as mangé? C'est toi les savates dans le salon? C'est toi? Le mari va dire deux choses. Soit arrête de me prendre la tête, c'est pas moi. Qu'est-ce que tu me prends la tête? Il commence à me parler en réponse à l'agression. Soit il va se dire tout simplement, attends. Dans le cas des savates, c'est quoi? Je suis vraiment désolé, mais peut-être qu'elles ont atterri là toutes seules. Ah, tu te moques de moi? Non, viens, on vérifie avec les enfants, c'est peut-être pas moi. Viens, on vérifie. Oui, on peut vérifier. On se rend compte qu'il y a un gosse qui l'a dit. Ça peut régler le problème, mais pas s'énerver. Dans le cas du goûter, écoutez bien, ça c'est magique. Messieurs, vous écoutez, c'est magique. De dire, attends, en fait, t'as peur pour moi quand je mange la nuit. Tu t'en fais pour ma santé. Moi aussi, je t'aime. Quoi? Attends.
C'est théorique, ça.
Non, c'est pas théorique. Mais non, c'est pas théorique. Non, c'est pas théorique. Je vais t'expliquer. Attendez. Je peux? Est-ce que je peux? Je peux. Toi, tu dis théorique. Je dis qu'en pratique, ça marche. Comment ça fonctionne en pratique? La femme, sur le coup, elle est énervée. Arrête de te moquer de moi, qu'est-ce que tu me rends? Oh, bon, si je t'aime, qu'est-ce que c'est? Oui ou non? Ce qu'elle va dire. Mais quand même, toi, t'as réussi à rester calme, et à dire, moi, je sais, je t'aime. Quand même, elle s'énerve, tu dis, oh, ok, t'es fâché, c'est pas grave. Mais tu t'énerves pas, toi. Elle va réaliser, elle, que tu as dit, moi aussi, je t'aime. Elle va se dire, en plus, il a réalisé, en réalité, que moi, c'est pas pour le principe que j'ai préparé les sandwichs, mais c'est aussi qu'il grignote la nuit. C'est pas bon pour la santé. Après 23h30, la nuit, le corps est réglé pour endormir la majeure partie de son métabolisme et tout ce qui sert au corps à digérer. Ce qui veut dire, après 23h30, d'accord, il y a les glandes surrénales et les glandes adrénales, elles vont faire dodo. Et elles servent à régler les hormones par rapport à l'alimentation. Donc tout ce que vous êtes en train de manger, ça ne pourra que vous faire grossir ou du cholestérol ou du diabète. C'est du pur poison. Manger après 23h30, c'est prendre du poison. Poison. Vous avez suivi le truc ou pas? Donc, qu'est-ce qu'on voit sur le plan médical? Maintenant, qu'est-ce qu'on voit en réalité par rapport à ça? On voit tout simplement que là, ma femme a dit, ah bon, il a réalisé quand même que je m'en fais pour sa santé. Ou peut-être que je m'en faisais pas pour sa santé, mais il croit que je m'en faisais pour sa santé. Donc, même si je me suis énervé, j'ai quand même le bon rôle. Il écoute, monsieur Nakache, ou pas?
Oui.
Il y a ton nom, t'es enregistré. Oh. Fini. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit en réalité? Ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, elle a entendu, moi aussi, je t'aime. Alors, soit elle se dit, il a compris que je l'aime, ou soit elle se dit, mais à ce moment-là, je ne l'aimais pas, mais s'il me dit, moi aussi, je t'aime, ça veut dire que... Si il me dit, moi aussi, je t'aime, ça veut dire que moi aussi, je l'aime. Et ça la calme. Une heure, deux heures plus tard. T'as pas 4 jours d'enfer à cause de cette histoire. Ça se calme tout seul. Parce qu'il y a toujours l'idée de Serrara, de travailler ses nerfs. Maintenant, quand les deux dans le couple, on a écouté un cours de Torah comme celui-là, d'accord? Les deux dans le couple, on se met dans la dynamique de travailler sur soi pour être positif. ça aide en plus. Donc on n'est plus du tout dans le théorique. Il ne reste plus qu'à faire. Maintenant, on continue. Bezrat Hashem. Je vous ai dit, n'intervenez pas, les missiles vont partir. Alors maintenant, tout simplement, qu'est-ce qu'on voit? Mais c'est bien ces questions-là. Baruch Hashem.
Le problème, c'est quand on écoute entre mari et femme le même cours, oui. Après, quand on fait des réponses comme ça, ça fait chelou. Et tu me fais la
c'est
réponse.
C'est pas grave, ça veut dire non.
Ça fait.
Pas du tout. Pas du tout.
Pas du tout.
Pas du tout. Elle va se dire Baruch Hashem. On est allé au cours, il met en application les conseils, il a bien écouté.
Le problème, c'est qu'il répond la même chose.
Voilà. Pas grave. Ça, il y a plus d'embrouilles. Mais je veux dire autre chose. Voilà, moi, je peux vous dire, très souvent, il y a des maris, ils reçoivent des SMS dans la journée. Le SMS, il ne s'exprime pas, il ne parle pas le SMS. Tu as reçu un SMS de ta femme dans la journée. Ou la femme reçoit un SMS de son mari. On ne sait pas si le SMS, c'est une expression de nerfs, un reproche, c'est... T'as oublié les citrons. Fais les courses, t'as oublié les citrons. Est-ce qu'on me fait un reproche? Est-ce que la personne est énervée? Est-ce que c'est pour me dire d'acheter d'autres citrons?
Ouais, ils vont du smiley à côté.
Hein?
Smiley,
oui, mais des fois, le smiley, moi, je peux vous dire, il est dangereux. Non, mais attendez, est-ce que vous rigolez? Moi, j'ai des couples, non, mais je suis très sérieux, je suis très sérieux. J'ai des couples qui me disent... Mon mari ou ma femme a envoyé un smiley, et je dis, c'est bien, il y a un smiley, la personne était calme, parce qu'il me montre les téléphones, les gens, des messages. Et on dit, non, non, c'est, en réalité, le smiley, c'est ironique. Il était en colère. Il était en colère, c'est ironique. Donc même le smiley, il sert à rien, le smiley, d'accord? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit en réalité? Qu'est-ce qu'on voit en réalité? Tout simplement, comment on fait pour gérer cette crise? Il y a un truc magique. Pas du tout. De répondre par SMS, moi aussi je t'aime. Vous croyez que je rigole? Vous croyez réellement que je rigole? Moi aussi je t'aime. Veux-tu que j'achète des citrons? Non, non, veux-tu que je t'achète des citrons? Non, tu l'as déjà épousé. C'est fini. D'accord? Mais attends, excuse-moi, je peux? Est-ce que je peux? Je peux? On va y aller. Donc, veux-tu que j'achète des citrons? Oui? C'est non? Le moi aussi je t'aime, ça fait décompresser. Veux-tu que j'achète des citrons? Oui, non, c'est fini. Pas prise de tête une heure. Surtout, ne va pas appeler le téléphone, faut pas appeler l'autre. Parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend de l'autre côté. Non, vous avez compris ou pas? Ça a l'air idiot. Je peux vous assurer que ça marche. Il y a des couples à qui j'ai donné ce truc, ça marche. Oui? Ou encore l'autre chose, c'est « Ah ben j'ai oublié, je pensais à toi. » Non? tu occupais tout mon esprit. Quoi? Non? Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Il y a... Non mais le mari... À n'importe quel âge, il doit penser à sa femme. Et la femme... Non, pas en théorie. Pas en théorie. Je vais vous expliquer la différence entre le romantisme selon la lecture non-juive et le romantisme selon le Talmud. Le sentiment amoureux, je l'ai déjà expliqué la semaine dernière, normalement, il me semble, qu'avec l'âge et les années, ne fait que grandir. Il n'y a pas la théorie du coup de foudre, et avec le temps, ça s'évanouit. Parce qu'on était beau, parce qu'on était jeune, parce qu'on était plus énergique. Vous comprenez ou pas? Pas du tout. C'est pas ça. C'est on s'aime de plus en plus parce qu'ensemble, on arrive à faire face aux épreuves de la vie. Et l'amour ne doit pas arrêter de grandir dans un couple. Quand il y a cet enseignement-là, qui est l'enseignement de la Torah, qui doit s'appliquer dans un couple, je vous assure que l'amour ne fait que grandir. Et après, quand on a un adolescent à la maison qui rentre, et on lui dit ça a été à l'école, il parle pas, il fait la mine, d'accord? T'as eu un problème? Ça a été, c'est une conversation. Oui?
Ça baba.
Voilà, ça baba. Oui, c'est énervant. Alors, il y a deux choix pour le parent. Soit de péter les plombs et de dire c'est quoi ton ou ton sababa, Tu peux parler, normalement, tu peux nous répondre quand tu parles. C'est ça, hein. C'est du bon, on rachète si tout va bien, je suis content pour toi.
Moi aussi, je t'aime.
Moi aussi, je t'aime. Oui, mais vous rigolez. C'est que ça marche. Ça les énerve, mais ça marche. Ça marche, ça marche vraiment. Et ça a l'air tellement simple et tellement idiot, et tellement gnon-gnon, que personne ne va oser le faire. Mais que ceux qui vont oser, vous allez voir la différence dans votre vie. Et je souhaite à tous d'oser le faire. C'est marrant, la prochaine fois que je me dirai, je l'entends dans la rue, moi aussi je t'aime, moi aussi je t'aime. Alors, comprenez ou pas ? Alors, moi, je vais vous raconter une anecdote. Non, mais une anecdote. Un fait réel. Quand je suis parti pour acheter une voiture. Non, mais attendez. Mais écoutez. Mais écoutez. Est-ce que je peux raconter ? C'est une histoire vraie. Mais attends, tu rigoles pas. Mais écoute. Attendez, il n'y a pas de montage. Nous, c'est en live. On assume. Je suis parti pour commander une voiture. Commander une voiture. D'accord ? Voilà. Et tout simplement, ce qui s'est passé, c'est quand je suis parti pour commander une nouvelle voiture, je vais chez le concessionnaire qui vend des voitures. Machlamra, comment ça va ? Et qu'est-ce que tu racontes ? Etc, 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 etc. Et il y a un monsieur qui me voit, il me dit « Oui, tu trouves ça normal, les orthodoxes qui vont pas à l'armée ?» On est dans un magasin pour acheter des voitures. Tu es assis devant le monsieur pour commander ta voiture. Moi, je viens pour voir les voitures. Moi aussi, je t'aime. C'est ce que je lui ai répondu. Il m'a dit « Quoi ?» Je lui ai dit « Aftal erecha kabocha, c'est que la gueule de la Torah. Abba Rabbi Akiva, non ?» Non. Il me dit quoi ? Et j'ai commencé à chanter « Amarabé Akiva, Amarabé Akiva ». Oui ? Oui ou non ? Et je chantais la chanson. « Klel Gadol Batora », etc. « Aftal Erecha Kamocha ». Il s'est retrouvé, il me dit « Mais moi aussi je t'aime. Oui, c'est vrai, on doit tous s'aimer. » Je suis alors viens, on ne parle pas des sujets qui fâchent. Qu'est-ce que je t'ai fait, moi ? Je t'ai rien fait. Commande ta voiture, je commande la mienne, c'est tout. » Et on n'est même pas rentré dans le sujet débat de ce qu'on va faire. On va changer le monde, les deux, en discutant tête à tête, on va rien faire. On va juste rajouter un peu de négativité dans ce monde. C'est tout. Il s'est retrouvé comme un idiot. Il m'a adoré. Il a pris mon numéro de téléphone. Il vient à mes cours de Torah. C'est fantastique. Il a même organisé des cours chez lui. Une fois, à interview à la radio. J'arrive, on me demande pourquoi les orthodoxes aujourd'hui, même séfarades, ils s'habillent comme les ashkénazes. Je suis venu pour une interview pour autre chose. Et bon, on me prend à partie. Donc je lui ai répondu gentiment. Je lui ai expliqué. Pour quelles raisons, etc., etc. On ne va pas rentrer dans le détail, c'est un autre sujet. Et à la fin, il organise des cours à l'intérieur chez lui. Parce que je lui dis, tu sais, moi aussi, je comprends que tu t'inquiètes pour moi, parce que je ne suis pas habillé normalement par rapport à toi, je comprends. Ça te choque, donc tu t'inquiètes pour moi, mais moi aussi, je t'aime. Il a organisé un cours de Torah chez lui. Tu crois que je blague ? Tu veux le numéro des gens ? Dans la Chassidut de Breslev, attention, moi en ce moment je suis branché un peu Chassidut de Breslev, c'est à la mode, tout le monde va à Ouman, on en profite, et surf sur le phénomène de mode, n'est-ce pas ? Il fut une époque où on allait à Ouman, ça coûtait 200$, aujourd'hui ça coûte, voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit en réalité ? On voit tout simplement qu'on te dit quoi ? On te dit que le but d'un Yehudi, c'est que son cœur de pierre devienne un cœur de chair. Et un cœur de chair, c'est Bassar Lev. Breslev. Oui ? Et comment on peut faire que l'autre, son cœur de pierre, devienne un cœur de chair ? On voit un frère juif, on est entre hommes. On le prend dans les bras, une minute, on se fait un petit accolade, d'accord ? Pourquoi ? Pour que l'autre sente à travers cette accolade une énergie positive. Vous savez ce que ça fait à quelqu'un quand il arrive ? Je dis, ah, comment tu vas ? Prends dans les bras. Il y en a qui sont décontenancés, il y en a qui ne comprennent pas ce qui se passe. Ben après, avec le temps, ils prennent l'habitude, ils se détendent. Oui ? Je peux vous raconter une anecdote. Il y a une fois une mère de famille, une famille Breslev, qui m'appelle pour donner des cours à un de ses enfants qui avait des problèmes. L'enfant en question, il avait 24 ans. D'accord ? Je vais là-bas, et quand j'arrive, les gens, ils me prennent dans les bras les uns après les autres, les hommes. Et moi, je croyais donner cours à un jeune de 24 ans, je me retrouve avec 15 bonhommes qui se lèvent tous pour prendre le rave dans les bras. Les 15, les uns après les autres. Je dis, attends, il me tatoue quand même. Non, mais à la fin, il me fait rigoler. Depuis, une fois par semaine, je leur donne cours. Et à chaque fois que j'y vais, c'est tout le monde se prend dans les bras. Et ça me fait rigoler à chaque fois. C'est que ça marche, cette histoire. Exprimer ses sentiments, ça n'a rien de honteux. Au contraire, ça rajoute beaucoup de positivité dans ce monde. Et ça nous permet peut-être d'accéder à nos rêves. Non ? Pas peut-être, sûr. Parce qu'en réalité, il faut bien comprendre. Yetzer Hara fait en sorte que les gens rêvent de quoi ? Aujourd'hui, à qui on donne du respect ? À ceux qui roulent dans des belles voitures, qui gagnent beaucoup d'argent, qui ont des belles maisons. D'accord ? Maintenant, on ne sait pas comment ils ont gagné leur argent. Et on ne sait pas non plus s'ils n'ont pas fait de crédit. Combien ils doivent aux autres ? Des fois, vous avez des gens dans des très belles voitures, dans des très belles maisons, qui habitent dans des très belles villes, mais qui doivent un argent fou à beaucoup de monde. Donc, ils sont sous pression du jour au lendemain. Tout leur rêve peut s'arrêter. Rêve de matérialité. Alors qu'en réalité, c'est pas ça le véritable rêve d'une vie. Le véritable rêve d'une vie, c'est de réussir son rôle principal dans son existence. Et à votre avis, quel est le rôle principal de l'existence d'un être humain ? Des réponses ? Non ? Je vais expliquer. Être un mari, une femme, un père, une mère. C'est réussir ce rôle-là. Ça, c'est le plus beau des rêves. Et pour réussir ce rêve-là, il faut se donner les moyens. Donc faire des études, c'est pour simplement avoir un métier, pour pouvoir réaliser ce rêve. Gagner de l'argent, c'est pour avoir une belle table Shabbat, c'est pour s'acheter une belle paire de tefillin, c'est pour gâter sa femme, veille de Shabbat, avec une petite rose même, une petite fleur, chacun selon ses moyens. D'accord ? Que la femme, elle fasse, je sais pas, elle offre un petit chocolat à son mari, je sais pas, des petits gestes comme ça, de rien du tout. Vous voyez ? Baruch HaShem, des gestes au jour le jour qui font plaisir. De se donner les moyens, en réalité, de réussir sa vie de couple, sa vie de parent. Et ça, ça se réussit le mieux quand on exprime ses sentiments. Je vais vous terminer sur une anecdote. Moi, je fais une chose avec mes enfants depuis des années. Quand j'étais à la Yeshiva, on m'a raconté l'histoire d'un chassid qui avait pour coutume de récompenser ses enfants quand les enfants lui avouer les bêtises qu'ils avaient fait ou les mensonges qu'ils avaient pu dire. Je me suis dit, ça, elle est géniale, cette chita, je vais essayer avec mes enfants. Je vais essayer. Oui. J'ai un de mes enfants qui rentre un jour à l'école, de l'école, il me voit, et je le vois, il n'est pas très communicatif, ça arrive. Tout va bien, il me fait le coup du Passe à baba, d'accord ? Le tout va bien. Bon, je dis, tout va bien, tant mieux, bah au crachet. Je laisse tranquille. Le lendemain, il rentre, la même chose. Je dis, tout va bien. Si t'as besoin de parler, je suis là pour toi. Est-ce que tu es sûr que tout va bien ? Ah non, je suis pas sûr. Mais tu me dis bien que tout va bien. Oui, mais pourquoi t'es pas sûr ? Je sais pas. Je dis, pourquoi tu sais pas ? Là, on est là, on t'écoute, on t'aime. C'est quoi ton problème ? On va t'aider. Oui ? Il me dit, voilà, je vais t'expliquer, j'ai eu un problème hier et aujourd'hui en classe. Il y a un enfant qui s'amuse à chaque fois pendant la répétition de la Amida Amintra à me piquer mon sidour. Hier, j'ai rien dit. Aujourd'hui, il a recommencé. Ça m'a énervé, j'ai voulu récupérer mon sidour. Le Rav pensait que je parlais pendant la tfila. Il m'a donné un pétec, comme quoi je me comporte mal pendant la prière et je dois te le faire signer. Déjà, le Rav, hier, il m'avait averti. Et quand j'ai voulu expliquer au Rav le problème que j'ai, le Rav n'a pas voulu m'écouter. Attends, je vous explique. Hein. Le Rav, il a 25 gosses dans la classe. La première occasion que les gosses peuvent chahuter, il va chahuter. Donc, il ne faut pas mal parler du Rav, Frère Shalom. Donc, forcément, dès qu'on en voit un qui commence à bouger de sa place, ou à parler, ou à bouger un petit peu trop, il avertit. D'accord ? Attends, je lui dis, mais pourquoi tu n'as pas pris le temps, tout simplement, d'aller voir le Rav après le cours, quand tout est terminé, et de lui expliquer ce qui se passe ? Le lendemain, ce qui se passe, l'autre garçon, il a recommencé parce que ça l'a fait rire, mais cette fois-ci, il a refusé de lui rendre son sidour. Mon fils fâché a fait deux pas en avant, c'est pendant la répétition de la Amida, après la Kedusha, donc il peut marcher, pour prendre le sidour. Le Rav lui dit, tu bouges de ta place, je te fais un pétec, tu vas faire signer ton père. Je lui dis, écoute, donne-moi le pétec. Moi, avant qu'il me dise, je lui avais dit une chose, je lui dis, écoute, voilà, si tu as un problème, sache une chose, moi je suis là pour t'aider, je suis pas là pour te punir, je suis pas là pour me fâcher. Si tu me dis ce qui va pas, je suis là pour t'aider. Si tu veux pas me dire, c'est ton problème, mais je vais pas réussir à t'aider. Moi, je veux t'aider. Maintenant, sache que si j'apprends qu'il y a eu un problème en classe, ou qu'il y a eu des parents d'élèves, le moindre souci, et que quelqu'un d'autre m'apprend qu'il s'est passé quelque chose avec toi, ça va me fâcher. Si tu me le dis toi dès maintenant, on n'est pas fâché, et en plus je te donne une petite récompense. Le gosse m'a expliqué, j'ai pris le pétec du rave, j'ai écrit au rave que c'est chamour méot, que c'est très grave ce qui s'est passé, et que ça n'arrivera plus. Et j'ai dit à mon fils, regarde, ton rave il a raison, c'est toi qui as tort. T'aurais dû tout simplement lever la main en restant à ta place, attendre que le rave te dise qu'est-ce qu'il y a, et insister en levant la main, et dire au rave, voda rave, il me prend avant de faire ta chanounim le sidour, il le fait exprès pour m'énerver, il m'empêche de me concentrer dans la prière. Et le rave il se débrouille avec l'autre. Il me dit, mais l'autre, en plus, l'élève, il est venu quand j'ai reçu le pétekra, donc, mauvais, d'accord, un mauvais mot. Il me dit, bagi alecha nananere. Vous voyez, en sortant de la classe. Je me dis, lui, il est idiot, je vais s'expliquer. Il veut t'énerver demain, il veut t'énerver à la maison. S'il fait ça, il doit énerver ses frères et sœurs. Il va énerver ses parents. Il a beaucoup d'amis en classe? Non, pas beaucoup. Je dis, tu vois, quelqu'un qui veut énerver tout le monde, on met de côté. S'il ne s'arrange pas, ce garçon-là, il faut commencer à prier pour qu'il s'arrange. Parce que Chas v'Shalom, si ça range pas, demain il va énerver sa femme, il va énerver ses gosses, il va énerver le monde entier. Il va se retrouver tout seul. Mais il t'a raison. Il a un problème. Je lui dis, donc toi t'as pas de problème, c'est lui le problème. Je lui dis, attends, tu vas retourner demain, s'il t'embête, tu réagis pas, tu dis rien, à la fin du cours tu vas voir le rave. Alors ça s'est exactement passé comme ça. Il est parti voir le rave le lendemain, mon fils, j'ai pas appelé le rave. Il est parti voir le rave, il lui a expliqué ce qui se passe depuis 3 jours. Que c'est l'autre, etc. Le rave vient et constate que son sidour de mon fils avec son nom est sur la table de l'élève. D'accord ? De l'autre côté, donc il voit bien que l'autre y a pris le sidour. Et le rave, il dit donc à mon fils, il dit, écoute, voilà, je suis vraiment désolé, je te demande Mechila. D'accord ? C'est très bien que tu sois venu me voir, je vais écrire un pétec comme quoi, maintenant, tu as compris ce qu'il t'a dit. Qui t'a dit de venir me voir ? Mon père. Donc je vais écrire un pétec à ton père comme pour dire que tu as bien compris ce qu'il a dit ton père. Ton père t'a beaucoup aidé. Comment il est le gosse ? Comment il est le gosse ? Il y en a beaucoup qui se font avoir, parce que ça commence comme ça, des petites classes maintenant. Un gosse qui est mal compris, les parents qui se fâchent, qui s'énervent, qui n'arrivent pas à communiquer avec l'école, avec le rave, ou qui vont appeler le rave pour dès qu'il y a un problème, on prend à partie l'enseignant. Si mon fils il a un problème, ou ma fille elle a un problème, c'est ta faute à toi. C'est à toi de faire en sorte que... Je vous invite, vous, à essayer un jour, s'il y a une classe de 25 enfants, qui ne sont pas vos enfants. C'est un métier. Qu'est-ce qu'on voit en réalité ? Tout simplement, on voit quoi ? On voit que quand on ne le fait pas, on peut enfermer un enfant dans un cercle à fainéant négatif où il se met en situation d'échec. Il baisse les bras. Et s'il commence à baisser les bras dans une petite classe et que ça continue, avant qu'on arrive à réaliser qu'on a eu un problème... Des fois, c'est trop tard. L'Oalénou. D'où le fait d'arriver à être positif et d'arriver à parler avec les enfants. C'est quoi notre rôle en tant que parents ? Oui, c'est Shalom Bayit, éducation des enfants. Ça va ensemble. C'est quoi notre rôle ? C'est d'être à l'écoute de l'autre pour l'aider. Donc, si c'est notre rôle vis-à-vis de nos enfants, si maintenant, vous, messieurs, vous considérez vos femmes comme vos filles, et vous, mesdames, vous considérez vos maris comme vos enfants, comme vos fils, ou non ? Et qu'on doit être là l'un pour l'autre pour arriver à se comprendre. On se dispute plus. On discute. Maintenant, on peut discuter fort. On peut même des fois ne pas être d'accord. Mais arriver à la fin à une entente, à un dialogue. Parce qu'on est là pour dire, je suis là pour t'aider. J'estime que ton comportement n'est pas convenable dans la maison. Qu'au lieu de rajouter une positivité dans la maison, ça rajoute du stress et une négativité. Il faut changer ça. Comment on fait pour changer les choses ? Viens, tu veux faire un effort ? Moi aussi, je vais faire un effort. Donnant. Non ? Et comme ça, on peut arranger son Shalom Bayit. Parce que c'est comme ça que ça marche. Be'ezrat Hashem, on a tous le mérite d'avoir la bracha, la tzlacha, la parnassa, dans la rochanou, dans la reshbiout, le nachat, et cette force de sortir le yetzerara de notre cœur et de la maison, en enlevant avec lui cette négativité. Be'ezrat Hashem.
J'ai juste une question, c'est quel rapport avec la chine d'Adam Kala, par rapport à vous?
Alors, on reprend tout simplement. Ouais. C'est tout simplement les femmes.
À part le chinois, j'ai beaucoup, mais par rapport au Dadan Kala, c'est plus dans le sens.
Ça veut dire que les femmes, du fait qu'elles soient plus sensibles au phénomène de devoir donner la vie, c'est un phénomène d'avoir des enfants, etc. Elles sont plus en relation avec le divin que les hommes. Et elles se projettent plus dans le temps. Elles idéalisent beaucoup plus leur relation. Et si la relation n'est pas au niveau de l'idéal dont elles s'étaient faites de leur relation et de leur mariage, elles commencent tout simplement à devenir négatives dans le foyer. Comprenez ou pas ? Si les maris n'arrivent pas à comprendre, de dire à la femme, écoute, excuse-moi, qu'est-ce que je dois faire pour arranger la situation ? Pas pour m'arranger, moi. Arranger la situation. Arranger les choses entre nous. Faire en sorte que tu te sentes mieux. Que je devienne ce prince charmant dont tu t'étais imaginé quand tu jouais à la poupée quand tu étais petite. Oui, un jour, le prince charmant. Oui, non, bon, il viendra et tout. Sur le grand cheval blanc, non ? Oui ? C'est pas grave, hein, ça peut être... Ça peut être une Kaïa blanche hein, aussi, hein, ça le fait qu'il y a, hein, ou Hyundai, ou je sais pas quoi, mais en réalité, c'est quoi ? Oui, pour devenir, ou un autobus blanc, une trottinette blanche, je sais pas, pas grave, un truc blanc, un pantalon blanc, rigole. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit par rapport à ça, tout simplement ? Comprenez ou pas ? C'est le mari, c'est à lui de faire attention, c'est ça que j'ai expliqué tout à l'heure, comprenez ? Les hommes, ils ont pas ça. Les femmes, quand elles ont 11 ans, 12 ans, elles s'imaginent déjà le jour de leur mariage, de leur mari, leurs enfants, leur vie. Les maris, à 11-12 ans, c'est Game Boy, PlayStation, je sais pas quoi. Hein ? Tout simplement. Il y a un décalage entre les hommes et les femmes. Les hommes se projettent beaucoup moins. Donc l'homme est dans le moment qu'il est en train de vivre, et la femme... Elle est dans la vie qu'elle a vécue jusqu'à aujourd'hui. Et comme elle a tendance à se projeter, il y a un autre problème. C'est que dès qu'il y a un problème qui se pose devant elle, elle voit, elle, toute la catastrophe qui peut découler du petit problème. Donc elle va avoir tendance à plus s'angoisser que l'homme dans le foyer. Un enfant qui commence à arriver en retard à l'école, ça se répète à plusieurs reprises. La femme, elle se dit, s'il arrive en retard, il va être mal noté. S'il va être mal noté, il va pas avoir son bac. S'il va pas avoir son bac, il va pas étudier à la fac. S'il va pas étudier à la fac, il va pas avoir un bon métier. S'il va pas avoir un bon métier, il va pas se marier avec la femme de ses rêves. Il va pas se marier avec la femme de ses rêves. Il va pas être épanoui dans son schlumbaït. Il va faire des enfants. Les enfants, ils vont pas être bien. À la fin, je vais l'avoir lui, sa femme et ses enfants à la maison. Sa femme va me dire, t'as mal éduqué mon fils. Et mes enfants, c'est à cause de toi qu'ils sont comme ça. D'accord ? T'as mal éduqué ton fils. D'accord ? C'est à cause de toi que mon mari est comme ça. Oui ou non ? Elle voit tout ça, la femme. À la fin, le fils, il va divorcer, 40 ans, il revient à la maison, sur sa PlayStation. Le gosse a 6 ans, hein. Ça fait 3 jours qu'il est arrivé 5 minutes en retard à l'école. C'est ça la différence. Le père, il va dire, mais c'est pas grave, il arrivera pas en retard, il est fatigué, il a du mal à dormir et tout. La femme va dire, attends, quand même, ça commence à être problématique.
Il y a beaucoup d'hommes qui sont comme ça aussi. Hein ?
Mais je donne cet exemple-là, d'accord ? Mais dans la majeure partie des cas, c'est plus les femmes que les hommes. Dites pas qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont comme ça. Les hommes ont tendance à ce niveau-là à plus relativiser que les femmes. Dans la majeure partie des cas. Bezrat Hashem. Vous le verrez en temps en heure avec vos enfants, Bezrat Hashem. Hein ? Avec le bon mari, avec l'aide de Dieu. Et des beaux enfants en bonne santé. Donc, tout simplement, on voit en réalité que c'est un véritable problème. De la même façon, quand on a un mari qui exceptionnellement est comme ça, et un peu, c'est pas parce qu'il se projette, le mari. La femme, c'est pas parce qu'elle est angoissée qu'elle est comme ça. C'est parce qu'elle arrive à voir les choses se passer dans le temps à l'avance. Elle a une sagesse que l'homme n'a pas. L'homme, quand il se comporte comme ça, c'est pas par sagesse, c'est par stress et angoisse. C'est pas la même chose. On a affaire à un mari qui est stressé et angoissé pour tout. Pas que pour ça. Une femme, elle peut être détendue sur tout. Dès qu'il y a un problème qui se pose avec un enfant, elle commence à s'angoisser. Comprenez ou pas ? C'est ça la différence entre les hommes et les femmes. Comprenez ? On est d'accord ? Voilà, Baruch Hashem. Bezrat Hashem. Donc, il y a encore des questions ? Plus de questions ? Baruch Hashem. Donc, on est tous la réussite dans nos foyers. Beaucoup de shalom bayit, beaucoup de nahat. Bezrat Hashem. Et qu'on voit très bientôt Mashiach arriver. Amen. Pour que ce soit lui qui nous fasse des cours de shalom bayit. Amen. Amen.